Tel est le thème que Dieu a placé dans mon cœur. Je sais que nous nous posons la question, de quoi veut-on parler, parents et prophètes? Qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? J'aimerais lire avec vous deux portions des Écritures. La première, très longue. J'ai eu un dilemme pour sélectionner en disant, est-ce que je prends simplement une portion? Mais je pense pour cette première séance, je vais faire la lecture dans sa totalité. Et puis, peut-être avec le temps, nous prendrons simplement des bribes. Je lirai avec vous Genèse chapitre 49, du premier verset jusqu'au verset 28. Pensez-y. 28 versets. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » On peut demander, mais quel culot, permettez-moi le terme. Ce père veut dire qu'il va parler du futur de ses enfants. Il vient leur dire, voilà où vous allez. Voilà ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il ne dit pas je pense, il ne dit pas je crois. Il a la certitude que les paroles qu'il va prononcer de sa bouche vont tailler le futur de ses enfants. Verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Et il commence à citer chacun des enfants. Ruben, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Un peu tu es comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as sué ma couche en y montant. Parole de malédiction quasiment. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Judas, toi, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté des Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous les fardeaux. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur les chemins, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, Joseph. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions qui m'épèrent jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Jacob, sur les sommets de la tête du prince de ses frères. Benjamin, par contre, est un loup qui déchire. Les matins, il dévore la proie. Et le soir, ils partagent les butins. Écoutez le verset 28. Ce sont là plutôt tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur père leur dit en les bénissant. Et j'aime la fin du verset 28. Il est béni chacun selon sa bénédiction. Chacun selon son, son quote-part, dit une autre version. Et j'aimerais déjà dire là, les mots bénédiction tel qu'il est placé là-bas, ce n'est pas dans sa racine latine pour dire benedictere, dire du bien en souhaitant que le bien arrive, non. Les mots bénédiction tel que c'est placé là, dans sa racine en araméen et en hébreu, ça veut dire équiper ou revêtir d'un manteau qui amène à la réussite. Et même quand je dis amène à la réussite, ça a tenu qui condamne à la réussite. Et ce manteau, c'est papa qui les rêvait. C'est papa qui, par les paroles qu'il prononce, lance ses enfants sur le chemin de la vie. Je le montrerai tout au long de ces jours qu'être parent, ce n'est pas seulement être géniteur. Ce n'est pas seulement participer biologiquement à l'existence de quelqu'un. C'est un rôle qui va au-dessus de cela. Nous sommes comme des archers. Vous savez, la force d'une flèche dépend de la force avec laquelle l'archer peut lancer. Et nous avons la possibilité de lancer nos enfants le plus loin. J'aimerais lire aussi une deuxième portion des Écritures, Genèse au chapitre 27, versets 1 à 4, et puis versets 27 à 28. Genèse 27, 1 à 4, et puis 27 à 29. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils, » et il répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Vois donc, je suis vieux et je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse du gibier. » Et écoutez la fin du verset 4, « Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Afin que mon âme te revêt d'un manteau qui te condamnera coûte que coûte à la réussite avant que je ne parte. » Il y a certaines choses qui ne dépendent pas de Dieu. Il y a certaines choses qui dépendent de la bouche des parents. Et durant ce temps, Dieu coopère avec les parents pour amener que les choses s'accomplissent. Et verset 20, 27 jusqu'à 29, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il est béni. Encore ce mot qui revient. Et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Que Dieu te donne de la graisse de la terre. Que Dieu te donne du blé et du vin en abondance. Waouh. Et les parents fonctionnent comme un prophète. Écoutez ce qu'il dit au verset 29. Que des peuples te soient soumis. Et que des nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Waouh. Et le papa termine en disant, maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Durant ces 5 jours, nous allons parler sur ce thème, parents et prophètes. Et durant ces 5 jours, partant de ces 2 textes que j'ai pris au départ, nous allons montrer les très grands pouvoirs que les parents ont sur l'avenir et le devenir de leurs enfants. Les très grands pouvoirs. Je ne parle pas d'un pouvoir, je ne parle pas d'un pouvoir normal, je ne parle pas d'un petit pouvoir, je parle d'un très grand pouvoir que les parents ont sur l'avenir et le devenir de leurs enfants. Et j'aimerais déjà à ce niveau dire que devant ces très grands pouvoirs disponibles, il y a certaines attitudes. La première, c'est que certaines utilisent ces pouvoirs et certaines ne l'utilisent pas. Un pouvoir disponible, un pouvoir que chacun de nous peut utiliser. J'aimerais d'abord me rassurer. Y a-t-il des parents ici qui avaient des enfants? Levez la main. Dieu merci, je suis dans l'auditoire qu'il faut. Baissez la main. Et ce très grand pouvoir, comme j'ai dit, certains l'utilisent, d'autres ne l'utilisent pas. Et parmi ceux et celles qui l'utilisent, il y a 3 catégories. Premièrement, il y a ceux et celles qui les font bien. Et ils les font bien parce qu'ils ont été enseignés sur ces sujets. Ils ont été enseignés sur le pouvoir que les parents ont au travers de leurs paroles de tracer les destins des enfants. Deuxième catégorie, il y a ceux et celles qui l'utilisent instinctivement. c'est-à-dire sans forcément avoir été enseigné. Ils les font par à-coup. Et ce qui fait qu'aussi le profit n'est pas maximal, parce qu'ils ne les font pas suffisamment bien, ou comme cela aurait dû être fait. Et puis il y a la troisième catégorie, ceux et celles qui l'utilisent à peine ou accidentellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils les font, mais ce n'est pas un style de vie. Et la raison d'être pour laquelle je veux insister tout au long de ces jours, c'est que je vais enseigner devient un style de vie. Et j'aimerais vous dire, si vous en faites un style de vie, vous n'avez aucune idée, vous investissez pour votre bonheur et pour le bonheur de vos enfants. Aide-moi à dire à ton voisin, l'avenir de tes enfants est dans ta bouche. Mais il y a une deuxième catégorie, ce sont des hommes et des femmes qui n'utilisent pas ces très grands pouvoirs. Et parmi celles et ceux qui n'utilisent pas ces très grands pouvoirs, il y a aussi trois catégories. La première catégorie, c'est ceux et celles qui ne l'utilisent pas par ignorance, par méconnaissance. Ils ne s'en servent pas parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont entre leurs mains ou à leur disposition une arme efficace. Deuxième catégorie parmi celles et ceux qui ne l'utilisent pas, ce sont des hommes et des femmes qui ne l'utilisent pas par négligence. Ils sont au courant que ça existe, mais ils n'ont pas le temps de faire ça. Surtout dans votre monde à vous aujourd'hui, vous êtes hyper occupés. Et j'aimerais déjà aussi dire, je le dirai tout au long de l'enseignement, il y a certaines choses qu'il faut faire à un moment. Si vous ne les faites pas à un moment, vous les ratez. Troisième catégorie dans ces groupes qui n'utilisent pas cette arme, il y a celles et ceux qui ne l'utilisent pas par mépris. Et quand je dis mépris, j'aimerais dire qu'ils sont tellement logiques, ils sont tellement cartésiens, ils sont trop intelligents. Un homme que j'ai rencontré un jour, il dit que le modernisme commence quand on cesse de croire à l'ancien, au ciel et à l'enfer. Il dit, le modernisme commence quand on cesse de croire aux anges. Et il utilisait des termes savants, il faut être bigot pour croire aux anges. Il faut être bigot pour croire que le fait d'être à genoux, d'avoir les yeux fermés ou ouverts et de prononcer quelques paroles et de s'imaginer que ce que l'on fait peut avoir de l'impact sur la vie de quelqu'un. Tellement intelligent. Les gens qui ramènent tout à la raison. J'aimerais dire, tout n'est pas raison, tout n'est pas logique, tout n'est pas explicable. Il y a des choses que je ne vois pas, mais ce n'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Il y a des ondes dans ces lieux, invisibles, mais qui sont réellement là. Je n'ai jamais vu la planète Mars comme ça, je ne l'ai jamais touchée. Je crois que ça existe par les images qu'on m'a montrées. Il y a des électrons qui sont en train de se promener ici. Qui a vu un électron depuis qu'on est là? Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu que ça n'existe pas. Et il y a un monde spirituel. Un monde spirituel avec des anges. Et puis il y a des réalités spirituelles. Je n'ai jamais compris un phénomène que nous avons vécu. J'étais tout petit en 74. J'avais 10 ans. Mon père a eu un ami, c'est un cousin, mais ils ont grandi quasiment comme amis. On les appelait des jumeaux, ils s'habillaient presque de la même manière. Ce jour de 74 au mois d'avril, j'étais tout petit. Je n'ai jamais oublié cette scène. On était assis au salon avec papa et maman. Et il y avait chez nous au salon la photo de papa et maman le jour de leur mariage. Et juste à côté, la photo de l'ami de papa. Vers 19h15, cette photo est tombée. Pouf! Mon père a dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il a pris la photo, il a remis à sa place. On a continué. 5 minutes après, ça retombe encore. Cassé avec la forme de vitre qu'il y avait. Papa dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a remis la troisième fois. À peine il s'est remetté, ça retombe encore. Quelqu'un de trop intelligent, ça dirait coïncidence. Et juste comme ça, mon père a dit à ma mère Cécile, quelque chose doit être arrivé à Évariste. C'était son nom. On a dormi à l'époque, il n'y avait pas téléphonie cellulaire comme aujourd'hui, facilité de communication. Le lendemain, parce qu'il était dans la police chez nous au pays, on appelait papa au téléphone, on dit, Évariste est mort depuis hier à 19h15. Il était capitaine dans l'armée, il s'occupait de la paix. Il avait quitté Lubumbashi, pour ceux qui connaissent mon pays, il était allé à Kolwezi pour aller payer les policiers. Et en rentrant, guet-apens, on a tiré sur lui. Les premiers coups, c'était à 19h15, les deuxièmes à 19h20, au même moment. Alors vous allez m'expliquer, coïncidence. Il y a des forces spirituelles, inexplicables mais réelles. Et je dis, certains ne pratiquent pas ces choses par mépris. Ils ramènent tout à la raison, tout à la logique, tout est cartésien. Tout n'est pas logique, tout n'est pas cartésien. Certaines fois, nous manquons certaines choses parce que nous ramenons tout à la raison. J'ai appris à croire à la folie de la foi, à la folie des choses spirituelles. Et j'aime quand l'apôtre Paul dira, il dit, la prédication de l'évangile est une folie pour quiconque croit. Folie. Folie. Et durant ces 5 jours, cet enseignement des parents et prophètes, je veux l'amener en touchant 7 sous-points. Les premiers sous-points et les deuxièmes, avec la grâce de Dieu, je vais les aborder aujourd'hui. Les premiers sous-points de mon enseignement, c'est raison d'être et motivation de cet enseignement. Pourquoi cet enseignement ? Les deuxièmes sous-points de mon enseignement, je parlerai presque à la fin aujourd'hui, les mystères du peuple juif, un peuple à part. Les mystères du peuple juif, un peuple à part. Les troisièmes sous-points de mon enseignement, c'est qu'être parent n'est pas et ne doit pas être seulement. Je montrerai comment être parent ne se limite pas à certains actes que l'on pose, à certaines choses que l'on fait. Ça va au-delà. Les quatrièmes sous-points de mon enseignement, c'est la pensée et les rêves de Dieu pour les parents selon la Bible. Et c'est là où je parlerai de l'aspect prophétique des rôles des parents. La pensée et les rêves de Dieu pour les parents selon la Bible. Le cinquième point, sous-point que j'aborderai, pourquoi certains parents ne sont pas et ne seront jamais des parents prophètes. Sixième sous-point et avant-dernier. Le cinquième, c'est pourquoi certains parents ne sont pas et ne seront jamais des parents prophètes. Et le sixième sous-point que j'aborderai, qu'est-ce qui arrive lorsque les parents ne jouent pas le rôle des prophètes? Je montrerai les conséquences. Je montrerai comment ne pas jouer ce rôle, ça ne laisse pas les choses telles qu'elles. Ça a des conséquences et des conséquences inimaginables. Et puis, ma conclusion, et sûrement ce sera le thème de mon message de dimanche, je parlerai de David, un exemple de réussite à l'extérieur et d'échec à la maison. Je démontrerai au travers de la Bible comment David, comme parent, comme plutôt personne, a réussi à l'extérieur, a réussi sur le plan social. Il a transformé un royaume faible en un royaume fort, mais il a échoué lamentablement chez lui à la maison. Alors que David est en train d'être respecté pour ce petit royaume qu'il a transformé, on voit l'inceste s'inviter chez lui à la maison. L'un de ses enfants va avec sa demi-sœur. On voit David assister aux meurtres et aux homicides qui se font chez lui. Absalom qui tue Amnon. On voit encore un de ses fils, Absalom, se révolter contre lui et le faire partir. Et même jusqu'au soir de sa vie, on va assister à Adonijah, à son propre fils, refuse les choix de David qui a voulu faire de Salomon le roi et il veut s'imposer. Et nous allons montrer le pourquoi toutes ces choses sont arrivées à David. J'aime le dire et j'aimerais le dire déjà ici. J'aimerais réussir sur le plan social, mais j'aimerais surtout réussir à la maison. Qu'il y ait des gens qui réussissent à l'extérieur, brillants professeurs d'université, brillants hommes d'affaires, mais en famille, zéro. Des enfants drogués, des jeunes gens qui dévient, qui font toutes ces choses. J'aimerais déjà d'entrée dire, ces gens qui moissonnent ces choses, ils n'ont jamais voulu cela. Ces parents qui arrivent à avoir des enfants qui font leur honte, personne n'en a désiré. J'aimerais avoir des enfants de telle qualité. Mais j'aimerais aussi dire, souvent nous avons tendance à penser que ça n'arrive qu'aux autres. Et j'aimerais aller plus loin pour dire, un, ça peut nous arriver, mais j'aimerais aussi dire, deux, on peut éviter cela. Et l'une des manières d'éviter cela, c'est d'être un parent prophète. Un parent qui fait usage de ses grands pouvoirs. On a l'impression que Jacob joue au théâtre. Il appelle ses fils, il dit, venez, je vais vous dire ce qui va vous arriver. Et chacune des paroles qu'il a prononcées, c'est arrivé exactement. Quand il dit à Zabulon, tu seras quelqu'un qui travaillera dans les eaux, tu seras quelqu'un qui aura des bateaux, ça s'est passé exactement ainsi. Les parents ont un très grand pouvoir. Nous avons de la dynamite entre nos dents. Nous avons une bombe plus forte que celle d'Hiroshima. Si vous n'utilisez pas votre bombe, moi je vais l'utiliser. Moi je suis un kamikaze spirituel. Ma bombe, moi je vais l'utiliser et je vais l'utiliser avec excès et exagération. Il faudrait que le diable m'arrête pour que je ne m'en sers pas. Pourquoi cet enseignement? Le premier point, raison d'être et motivation de cet enseignement. Avant de parler des quatre points qui font la raison d'être de cet enseignement et la motivation pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de partager ces choses, j'aimerais d'abord dire que cet enseignement s'adresse à un auditoire constitué de cinq types de personnes différentes. Cinq auditoires quasiment dans un seul. Premièrement, mon message s'adresse aux très jeunes, des célibataires, ceux pour qui les vérités qui seront mentionnées ici sont encore des choses pas utilisables à moyen et même à court terme. Et à vous, j'aimerais dire, notez si vous voulez noter. Mais si vous n'en avez pas, si vous en avez la possibilité, achetez des CD, achetez des DVD. Ce sont peut-être des vérités qui vous dépassent aujourd'hui, mais dans quelques années, vous en aurez besoin. Des jeunes gens pour qui le mariage d'abord est une réalité assez lointaine. Mais si déjà le mariage est une réalité assez lointaine, le rôle des parents, ce n'est pas dans 3 ans, ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas dans 6 ans. Et j'en parlerai tout à l'heure. Si je parle de vous, je dis, je vous envie. Je vous envie, pourquoi? Parce que les choses que moi-même je vous enseigne, je n'ai pas eu le privilège d'être enseigné dessus. J'ai eu à les apprendre un peu plus tôt. C'est pour ça que je dis, ces choses que j'enseigne, si moi-même je les avais entendues avant, combien je ferais bien certaines choses. Mon pasteur me disait toujours, ceux qui deviennent parents font de leurs premiers enfants des cobayes. C'est-à-dire, c'est avec leurs premiers enfants qu'ils apprennent à être parents. Et ils commettent beaucoup d'erreurs. En général, surtout chez nous les Africains, puisqu'on a des familles nombreuses. On devient meilleur parent, plus on a des enfants. On comprend comment ça fonctionne. Mais le problème, c'est que les erreurs qu'on commet avec les premiers enfants, ça ne se corrige pas. Des autodidactes avec les enfants. On apprend par essai, échec, réessai, amélioration, réessai et maîtrise. Mais le problème, c'est qu'au moment où tu n'essayes pas sur une cobaye en laboratoire. Tu essayes sur un être humain. Les erreurs que tu commets aujourd'hui vont l'accompagner toute la vie. C'est pour cela que je dis, vous les très jeunes, vous êtes privilégiés. Deuxième auditoire auquel je m'adresse, c'est aux jeunes gens qui s'apprêtent à se marier ou qui viennent de se marier. Vous êtes fiancé, vous allez vous marier dans 1 année, dans 6 mois, dans 9 mois. Ou vous venez de vous marier, mais vous n'êtes pas encore parent. Vous aussi, je vous envie. Vous allez recevoir ces choses au bon moment. Et quand vous allez recevoir ces choses, je m'imagine dans 2 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, vous serez parent. Vous poserez des actes que moi, je n'ai pas posés quand j'ai été parent la première fois. Parce que ces choses, c'est quasiment 6 ans, 7 ans après que je sois devenu parent que j'ai commencé à les comprendre. À l'étude, à la lecture de la parole de Dieu. Je commençais à regretter, je dis, si je les avais connus un peu plus tôt, et pourtant ils existaient, ils étaient dans la parole de Dieu, mais je n'en avais pas la révélation, ou mieux parce que je n'avais pas été enseigné sur cela. Troisième auditoire auquel je m'adresse, c'est ce que j'appelle de jeunes parents. Vous êtes là, déjà parents, mais depuis quelques semaines. Depuis quelques mois, Vos enfants n'ont pas plus de 2 ans. Et là, je dis aussi à vous, ce n'est pas tard. C'est la meilleure période pour vous équiper, afin que vous soyez, comme je l'ai dit, ces archers qui vont lancer ces enfants sur le chemin de la vie. Quatrième auditoire auquel je m'adresse, c'est ce que j'appelle les parents confirmés. Ils ont des enfants qui ont entre 10 et 24 ans. Pour vous, j'ai un sentiment assez ambigu. Pour certains, c'est un peu tard. Mais en même temps, je dis, c'est pas trop tard aussi. C'est quand même un peu tard. Mais c'est pas trop tard. Il est possible les choses qu'on n'a pas faites hier, qu'on puisse les faire maintenant. Parce que je crois à la puissance de la parole de Dieu qui aujourd'hui peut avoir des effets rétroactifs. Remonter le temps et aller corriger les erreurs que on a pu commettre hier. Et puis, cinquième auditoire auquel je m'adresse, ce sont de vieux parents. Et ils n'ont plus des enfants à leur disposition. Pourquoi? Parce qu'il est possible que même leurs enfants connaissent 2 choses. Soit leurs enfants sont allés maintenant au-delà de leur parcelle d'autorité. Ils n'ont presque aucun mot à dire. Et pire encore, leurs enfants ont eu des enfants. Et ils peuvent regarder aujourd'hui en ayant 2 types de regards. Un regard sur toi, lui, de cette parole, il comprendra, waouh, qu'est-ce que j'ai eu des manques. Et dans ces manques, certains se rendront compte, peut-être que la grâce de Dieu a travaillé et que vous n'avez pas moissonné des résultats négatifs. Non pas parce que vous avez travaillé, mais simplement la grâce de Dieu. Mais certains, et là n'est pas mon but, auront comme une culpabilité, des remords. En se disant, si ces choses, je les avais entendues avant, si ces vérités, je les avais connues avant, j'aurais pratiqué certaines choses et je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui. À vous, je dirais, le but, ce n'est pas de vous rendre coupable. Le but, plutôt, c'est de faire de vous des conseillers, des conseillères. En disant aux jeunes gens qui vont devenir parents, qui deviennent parents, ces choses qui sont en train d'être dites sont vraies. Je ne les ai pas pratiquées, mais vous direz à la jeune génération, ne commettez pas l'erreur que j'ai commise. Voilà ce que j'ai aujourd'hui entre les mains. Voilà la qualité d'enfant que j'ai. Parce que ces vérités qui ont été enseignées, je ne les ai pas pratiquées. Ne faites pas ce que j'ai fait. J'aime quand l'apôtre Paul dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Jeunes gens, nous n'avons pas le droit de commettre les mêmes erreurs que nos aînés. Mon père me disait toujours, j'ai un père depuis que je le connais, il est enseignant d'école primaire. Il me disait, Roland, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire les anciennes gaffes qui trouvent de nouveaux candidats pour les commettre. Et il disait, celui qui n'apprend pas des erreurs des autres, commet les mêmes erreurs et devient lui-même une référence. C'est pourquoi je prie que s'il y a cette ancienne génération qui a lu de ces choses que je vais mentionner durant ce jour, qui vont entendre ces choses, ils se mettront à genoux et diront, Seigneur, pardon, nous avons eu des manques. Mais ils pourront appeler les jeunes gens en disant, ne faites pas comme nous. Ne commettez pas les mêmes erreurs que nous. Nous n'avons pas le droit de laisser la jeune génération aller moissonner les mauvaises choses. Chez moi, on relate une histoire, elle n'est pas vraie, mais elle est symbolique. On relate une histoire de 2 voleurs qui sont allés dans une grande banque pour dévaliser. Ils sont arrivés à un endroit, ils ont tout maîtrisé. Et puis ils arrivent à un endroit, il semble que c'est là où il y avait l'argent. Ils ont regardé au travers d'une petite vitre, plein de liasses bien classées. Alors l'un a dit, moi je vais faire les guets, je vais commencer à vérifier s'il n'y a personne qui vient, et toi tu prends l'argent, tu mets dans les sacs. Le premier qui est allé, il a fait rentrer sa main pour prendre la première liasse, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un mécanisme avec 2 couteaux bien tranchants. Dès qu'il a fait rentrer la main, paf, sa main a été coupée. Avec la partie du bras qui restait, il a pris sa main qui était tombée, il a placé ça de côté. Il a placé sa main dans sa poche. Il a dit à son ami, moi j'ai eu ma part de liasse, va aussi prendre. Et quand son ami est venu la faire rentrer, la main, paf! Son ami lui a dit, ma main est coupée, il a fait sortir, il dit la mienne aussi. Comme pour dire, moi j'ai eu la main coupée, et on doit rentrer, toi il y a les 2 mains. Puisque la mienne a été coupée, ta main aussi doit être coupée. Que des gens qui disent, moi j'ai fauté, les autres aussi doivent fauter. Moi je suis tombé dans un trou, Les autres aussi doivent tomber dans un trou. Donne-nous des gens qui disent, là où je suis tombé, je ne veux pas que les autres tombent. La mauvaise moisson que j'ai eu à faire, je ne voudrais pas que mes enfants connaissent cela. Moi, j'ai pleuré, je ne voudrais pas que mes enfants puissent pleurer. Quelle est la raison d'être de cet enseignement? La raison d'être de cet enseignement est quadruple. Il y a quatre raisons pour lesquelles Dieu me fait tenir ici devant, mais en même temps aussi m'a fait déplacer pour partager ces vérités. La première raison d'être de cet enseignement, c'est l'encouragement. Parler de l'encouragement, c'est reconnaître la présence de certaines bonnes choses et insister pour leur présence. Et c'est pourquoi Dieu m'a amené ici pour encourager. Et quand j'encourage, j'aimerais encourager premièrement les jeunes parents, deuxièmement les parents confirmés, qui peut-être déjà ont eu la révélation de ces choses, qui les pratiquent de temps en temps ou qui les pratiquent régulièrement. À vous, Dieu m'a dit de vous dire, maintenez ces choses. Faites-les encore et encore. Faites-les régulièrement. Faites-les autant que vous pouvez faire. Ne vous relâchez pas. Continuez dans cette direction. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi, il lui prononce cette belle phrase. Il dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme étant certaines. » Tu as reconnu que ces choses sont bonnes. Tu as reconnu la certitude. Il dit, demeure dans ces choses. J'aimerais dire aux parents qui, à l'ouïe de cette parole, reconnaîtront qu'ils pratiquent ces choses, soit accidentellement, soit de manière cyclique. Mais j'aimerais vous dire, pratiquez-les encore de plus belle. Que ça devienne une coutume. Que ça devienne des rites. Vous n'avez aucune idée de l'investissement que vous êtes en train de faire. Je voudrais vous encourager. Et j'aimerais surtout aussi vous encourager à ne pas vous relâcher. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 6, j'aime ce que l'apôtre déclare. Une parole merveilleuse. Hébreux chapitre 6, verset 10, plutôt verset 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, un, par la foi, deux, par la persévérance, héritent des promesses. Ne vous relâchez pas à vous qui pratiquez ces choses, d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit, de manière cyclique ou habituelle. J'aimerais, durant ces jours, vous encourager, continuer à les faire. La deuxième raison d'être de cet enseignement, c'est l'équipement. Équipement. Et quand je parle de l'équipement, cette deuxième raison d'être touche les deux premières catégories que j'ai mentionnées, les très jeunes, pour qui le mariage ainsi que la parenté sont des réalités encore lointaines. Mais ça touche aussi ceux qui s'apprêtent à se marier. Le but de ces enseignements durant ces 5 jours, c'est vous équiper. Et quand je parle d'équipement, le verbe équiper cache 2 idées. La première idée cachée derrière le verbe équiper, c'est pourvoir quelqu'un de ce qui est nécessaire pour une activité et l'accomplissement d'une tâche. Pourvoir quelqu'un de ce qui est nécessaire pour une activité et l'accomplissement d'une tâche. Monsieur le policier, tu dois aller faire un travail en dehors. Alors on lui donne une tenue, on lui donne des bottes, on lui donne une matraque, on lui donne un appareil de communication. C'est-à-dire, on attend de lui les performances, mais pour qu'il le fasse bien, on lui donne des choses qui sont nécessaires. Va nous aider à ranger l'électricité, mais il ne peut pas aller les mains vides. Il doit avoir un tensiomètre, il doit avoir tel autre instrument équipé, c'est pour voir quelqu'un de ce qui est nécessaire pour une activité. Et je prie que durant ces 5 jours, à vous qui faites partie de cette catégorie, que ces journées soient de l'équipement. Que ces enseignements qui seront donnés ici soient comme des matériels que l'on met entre vos mains. Deuxième idée cachée derrière le mot équipé, c'est doter quelqu'un des choses nécessaires, connues ou inconnues, pour qu'il fasse bien quelque chose ou pour qu'il très bien joue un rôle. Doter quelqu'un des choses nécessaires, connues ou inconnues, pour qu'il fasse bien quelque chose ou très bien joue un rôle. J'aime beaucoup illustrer ça par 1 Samuel chapitre 17, verset 38. 1 Samuel 17, verset 38, c'est vrai. Cela s'applique à Saül, qui sûrement n'avait pas la révélation, mais j'aime le sens des responsabilités cachées derrière. Saül sait que David a affaire à un guerrier Goliath. Goliath qui a tout ce qu'il faut, une cuirasse, une épée. Et Saül laisse David aller se battre. Mais il dit pour qu'il aille se battre, il a besoin d'un équipement. Il a besoin des choses qu'il faut pour qu'il remplisse la tâche que je lui demande. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Ça s'appelle l'équipement. Vu ce que tu dois aller faire, il faut que tu aies ça. Sans ces choses, tu seras moins performant. Sans ces choses, tu ne pourras pas bien remplir ta tâche. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, ainsi que le verset 13, alors qu'il encourage ses enfants de la foi au combat spirituel, l'apôtre Paul leur montre la nécessité de l'équipement. Il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous voulez aller combattre? Soyez équipés. Vous voulez avoir des résultats? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. L'équipement est d'une grande importance. Et je priais durant tous ces jours à Kinshasa, à Toronto, Seigneur, aide-moi par ma bouche qu'une génération soit équipée. Et à cette catégorie, pour qui cet enseignement va servir d'équipement, j'aimerais dire trois choses comme principe. La première chose, c'est que la bonne volonté seule ne suffit pas pour jouer son rôle de parent prophète. Il faut bien plus que la bonne volonté, il faut avoir été équipé. Il faut avoir été équipé. C'est dans la mesure où on est équipé qu'on peut être performant. Deuxième principe que j'aimerais dire à ces jeunes gens pour qui cet enseignement joue le rôle d'équipement, c'est qu'on devient parent prophète parce qu'on a été équipé consciemment ou inconsciemment. Et quand je parle d'équipement, ça signifie qu'il y a une source émettrice qui connaissait des vérités et qui les a transmises à une autre personne qui a un récepteur. Moi, je puis dire, depuis maintenant 16 ans, je fonctionne comme parent prophète parce que j'ai été équipé. Les 6 ans d'avant, je ne fonctionnais pas ainsi. J'étais un parent sincère, mais moins performant. Troisième principe que j'aimerais faire partager à cette deuxième catégorie pour qui cet enseignement est un moment d'équipement, c'est que l'équipement se fait de deux manières. L'équipement qui transforme des jeunes gens normaux en des parents prophètes, ça se fait de deux manières. La première manière, par l'enseignement, par la communication des vérités. Et là, il y a deux sources. C'est à l'église de les faire. Et c'est à la famille. J'aime souvent le dire à Kinshasa, chez nous. L'église, des fois, nous sommes trop spirituels. Nous enseignons sur les 7 secrets, les 7 sceaux de l'Apocalypse. Le mystère de la grande tribulation. Les 3 ans et demi de la première tranche et les 3 ans et demi de la deuxième tranche. Le mystère de 2 témoins qui apparaîtront. On explique, le premier c'est Moïse et l'autre c'est Élie. On essaie d'expliquer les 7 tonnerres. Mais à part les 7 tonnerres, apprenons aussi aux jeunes gens comment être parents. Comment être un bon mari? J'ai trouvé des hommes spirituels, mais qui ne savent pas être tendres avec leurs femmes. Et ils sont sincèrement en manque. Parce qu'on ne leur a rien dit. Offrir des fleurs, c'est comme si c'était une hérésie. Je disais un jour à un homme de Dieu, la dernière fois que tu as dit à ta femme que tu l'aimais, c'est quand? Il dit, est-ce que c'est nécessaire? Hein, pasteur, elle le sait. J'ai enseigné aux jeunes gens, parce que depuis maintenant 2 ans et demi, chaque 2 mois, j'enseigne 1500 pasteurs chez nous. Je leur ai dit, jeunes gens, vous qui servez Dieu, vous pouvez faire de votre femme votre allié ou votre adversaire. Si vous l'aimez, vous la mettez suffisamment à l'aise, elle sera votre allié. Sinon, vous en ferez votre opposant radical. Pour ne pas dire comme chez nous, ça sera votre Tshisekedi wa Mulumba. Votre opposant. Qui vous rend la vie difficile. Vous savez, en tant que pasteur, il y a un peu de l'expérience. Je sais savoir quand un couple, ça ne va pas. Vous voyez un pasteur titulaire qui va venir prêcher, et moi comme prédicateur, je suis invité, je mange, je dis saluez votre voisin. Vous voyez, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Je n'ai pas besoin de révélation, je dis là, ça ne va pas. Et ça, c'est l'enseignement qui fait la différence. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Dieu parle au peuple par la bouche de Moïse. Les choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent pas de ton cœur, enseigne ces choses à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne, communique, parle, et dis. C'est pourquoi durant ces 5 jours, j'ai pris que Dieu m'aide à communiquer. Deutéronome chapitre 6 au verset 7, Jéhovah ajoute encore, et j'aime les verbes qui est utilisé cette fois-ci, ces choses, tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Les verbes utilisés ici, inculquer, dans sa racine en araméen, veut dire deux choses. Premièrement, faire pénétrer des forces et avec insistance. Il y a certaines choses pour qu'elles soient pratiquées, il faut non pas enseigner, simplement inculquer. Faire pénétrer avec force. Mais deuxième, il sens caché derrière le mot inculquer, c'est graver quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. C'est-à-dire enseigner de façon durable. Et quand on dit enseigner de façon durable, c'est presque enseigner jusqu'à fatiguer. En parler tellement. Et j'aime quand l'apôtre Paul dira dans Philippiens 3, 1, dit, ces choses sur lesquelles je vous écris, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Parce que cela vous est salutaire. En pédagogie, on dit, la répétition est la mère des sciences. Certaines choses, pour qu'elles restent, on doit insister et insister. L'équipement s'est fait par l'enseignement. Mais deuxième manière dont l'équipement s'est fait, ça se fait par le fait d'être exposé à un modèle. Quelqu'un qui est une référence. J'aimerais dire, parents, nous n'avons aucune idée. Nos enfants seront le genre des parents que nous-mêmes on a été. Dans Jean, au chapitre 5, au verset 19, Jésus-Christ fait une déclaration merveilleuse qui cache un principe pour montrer combien ceux qui se tiennent devant doivent avoir conscience qu'ils sont observés, qu'ils sont regardés par les autres. Écoutez ce que Jésus dit. En vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, la Bible dit, le Fils aussi le fait pareillement. Mimétisme. Ces choses que j'enseigne, si vous les pratiquez à vos enfants, sans que vous leur dites, faites-le aussi à vos enfants, ils le feront. Ça sera une pratique qui va se communiquer de génération en génération. J'aime beaucoup, je parlerai toute cette semaine beaucoup du peuple juif, mais nous voyons beaucoup dans la parole de Dieu. Dieu encourage, dit, inculque ces choses à tes enfants. Quand ils seront grands, ils en parleront aussi à leurs enfants, et leurs enfants parleront aux enfants de leurs enfants. Il dit enfin qu'ils puissent mettre la confiance au même Dieu auquel vous avez cru. J'ai lu au moins 4 reprises un merveilleux bouquin écrit par un psychologue chrétien. L'étude de ce bouquin, c'est la répétition des scénarios des familles. Et quand vous lisez ce livre, vous tremblez. Il dit 9 fois sur 10, sauf miracle et grâce de Dieu, nous sommes le genre de parents que nos parents ont été pour nous. Il dit, les hommes sont les gens de Marie pour leurs femmes, les gens de Marie que papa a été. Vous verrez un fils qui avait un père alcoolique qui cognait sa femme comme un boxeur. Sans que papa l'entraîne, il sera aussi un Mike Tyson pour sa femme. Vous verrez une jeune fille qui était exposée à une maman boudeuse qui humiliait son mari, comme les femmes chez nous à Kinshasa. Mais regarde, son mari dit, mais bali, ma bala, il y en a balabala. C'est-à-dire un homme. Est-ce que ça, c'est un homme? Quel homme? Et vous serez étonné, 10 ans après, elle a aussi un homme, elle pose les mêmes actes. On ne l'a pas entraînée, on ne lui a pas dit « fait ». Elle a été exposée à un modèle. Elle fait la même chose. J'ai prié que durant ce jour, Dieu m'a mis même à cœur que vendredi et samedi, s'il y a des liens héréditaires, que nous puissions les couper. Afin que si tu as hérité le caractère d'un père alcoolique, que tu arrêtes le cycle de l'alcoolisme, que tu inaugures une nouvelle génération. Une famille où il y a la polygamie depuis des années, où une famille où presque tous les hommes de la maison ont toujours eu un enfant extra conjugal. Je prie qu'avec toi, qu'il puisse y avoir l'inauguration d'une génération où on aura des enfants seulement avec la femme légitime et il n'y en aura pas à l'extérieur. Quand j'enseigne sur la délivrance, j'ai dit il y a des liens pour lesquels, pour les couper, on n'a pas besoin de délivrance, on n'a pas besoin de révélation. On a besoin de l'observation. Tu observes simplement. Papa, ils sont nés à 6. Et chacun d'eux a eu des enfants étranges, conjugales. Pas de révélation. Tu regardes, tu dis, moi, ça ne viendra pas au nom de Jésus. Tu regardes, tu fais partie d'une famille. Si vous êtes à 10 cousines, 9 cousines se sont mariées, moins de 5 ans après le mariage, divorce. On n'a pas besoin de révélation. Tu regardes, tu dis, il y a un problème comme ça dans notre famille. Moi, je ne ferai pas un aller pour un retour. Moi, j'irai directement et je ne reviendrai jamais. Et ce que je refuse pour moi, je le refuse aussi pour mes enfants. C'est quelqu'un d'accord avec moi qui m'aide à dire « Amen ». On devient un parent prophète en étant exposé à un parent prophète. C'est pourquoi je m'aurais dit, si vous n'avez pas eu de parents prophètes, vous pouvez devenir un parent prophète et léguer un exemple de parent prophète à vos enfants. Ce n'est pas parce que vos parents ne vous ont pas donné un modèle. Vous avez la possibilité de donner un modèle à vos enfants. Des choses que j'enseigne, mes parents ne m'ont pas enseigné cela. Mon père et ma mère n'ont pas été un bel exemple de mariage pour moi. Je me suis converti à 20 ans et demi. Je disais, quand je grandissais, je disais, si le mariage, c'est ce que je vois entre papa et maman, j'en veux pas. Je disais, mon père et ma mère, c'est des acteurs et des théâtres. Ils s'injuriaient comme des cantonniers. Combien de fois n'ai-je pas entendu ma mère crier, ah, je n'accouffie jamais. Et elle entrait dans ma chambre et papa venait torse nu, respirant comme s'il était sous l'eau. Sors. Et tout petit, je voulais défendre ma mère. Je disais, ah, s'il était possible de cogner les pères, je les cognerais. Mais le comble, c'est qu'il faisait tout ça. Et dès qu'on toquait à la porte, un visiteur venait. Écoutez comment mon père appelait ma mère. Chérie, tu peux m'amener un verre d'eau? Et je voyais celle qui venait d'être tabassée comme un prisonnier nazi. Amener les verres en rigolant. Alors, ce qui fait que même quand j'allais chez des amis et que j'arrivais chez des amis, j'entends leur papa appeler leur maman chérie. J'ai dit, acteur de théâtre. C'est sûr, ils font comme papa et maman. J'ai 4 filles. Mon couple n'est pas parfait. On a quelquefois de problèmes. Un jour, j'ai entendu ma fille dans sa chambre en train de prier. Seigneur, donne-moi un mari comme papa l'est pour maman. J'ai versé des larmes. Je dis, moi, je n'ai jamais prié comme ça. Parce que papa et maman, c'était des prisonniers, des coupables amenés à la CPI. des acteurs de théâtre de chez nous. Comme on dit chez nous, Mabouke, théâtre. J'ai dit, Seigneur, tu as permis que je marque des empreintes dans ces enfants. 2 Timothée chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que j'aime cette parole de l'apôtre Paul qui parle à son fils dans la foi. 2 Timothée 3, 10. Il dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Mais j'aime ce qu'il ajoute, ma conduite. Mes résolutions. J'aime une version dynamique. La version Alfred Kuhn dit, mais toi, tu m'as vu communiquer des connaissances, mais il dit aussi, tu as vu ma façon de faire et d'être. Il dit, tu en as aussi fait ta ligne de conduite. Tu as vu quelqu'un être, tu as vu quelqu'un faire, et tu dis, j'aimerais aussi faire comme ça. Que Dieu nous aide à être équipés, nous de cette génération, afin que si nous n'avons pas reçu de la génération passée, que nous puissions demain donner à d'autres. Si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à dire amen. Amen. La troisième raison d'être de cet enseignement vient dans le but d'avertir. C'est un avertissement. Et quand je parle d'avertissement, cela s'adresse à la troisième catégorie, c'est-à-dire aux jeunes parents. Ceux qui deviennent à peine parents, et puis aux parents confirmés. Les mots avertissement cachent trois idées. Premièrement, avertir, c'est attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose qui peut arriver. Attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose qui peut arriver. Deuxième idée cachée derrière les mots avertissement ou avertir, c'est faire savoir d'avance quelque chose dans le but, premièrement, de mettre en garde, deuxièmement, dans le but d'éviter, et troisièmement, dans le but de faire prendre les précautions. Avertir. Faire savoir d'avance quelque chose dans le but de, un, mettre en garde, deux, faire éviter quelque chose, et trois, faire prendre des précautions. J'aime souvent illustrer cela. Quelqu'un est en train de marcher à un endroit, il y a une pelouse verte, et puis du coup, il voit un écriteau. On dit, attention, fil électrique, 6600 volts. Le but, c'est quoi? On donne une information. Et on dit, il y a un danger. J'en parlerai tout à l'heure en progressant. On demande que tu puisses, vu cette information, prendre des précautions. Ça, cette information, tu marcherais comme si de rien n'était. Tu peux même toucher. Mais cette information veut dire, hey, maintenant, fais attention. Quand tu arrives là-bas, tu sautes et tu peux reprendre ta marche comme si de rien n'était. Quand il y a avertissement, il y a cet élément important, on fait savoir d'avance. Et j'aimerais vous dire, parents, ces choses peuvent arriver. Troisième idée cachée derrière le mot avertissement, c'est l'expression par laquelle on annonce d'avance la possibilité qu'une chose arrive. On annonce d'avance. Et dans l'avertissement, il y a toujours des actions essentielles. La première action essentielle dans l'avertissement, c'est l'information. La deuxième action essentielle dans l'avertissement, c'est l'insistance ou l'emphase. Et la troisième action nécessaire dans l'avertissement, c'est l'appel à la réaction. Et dans l'appel à la réaction, il y a soit l'ajustement ou le réajustement. Celui qui est averti n'a pas le droit de continuer à fonctionner la même chose. Que des gens qui, avant ou après l'avertissement, se comportent comme si rien n'a été dit. J'ai mes deux premières filles qui étudie ici aux États-Unis, dans un coin où il y a beaucoup de tornades. Et dit, chaque fois que ces tornades veulent arriver, il y a toujours un signal qui dit, si vous êtes à l'étage, quittez, allez dans le basement. Ne restez pas à un endroit où ces choses peuvent vous apprendre. On dit, et ça, une sirène, ça veut dire, prenez des précautions. Et moi, Dieu m'a envoyé ici pour dire, aux jeunes parents ou aux parents confirmés, prenez des précautions. Souvent, nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. J'ai 22 ans de vie commune avec mon épouse. Notre fille est née, pasteur Fidèle, à 21 ans. J'oublierai jamais. Elle avait à peine 18 mois. Je venais de terminer de prêcher ce dimanche à notre église à Kinshasa, là-bas. Je l'avais dans mes bras, je n'oubliais jamais, j'avais une chemise bleue ciel avec des bretelles. Et une dame a insisté, coûte que coûte, elle voulait me voir. Le protocole a dit, le pasteur est fatigué, il dit, je dois le voir, j'ai un problème sérieux. Elle est rentrée dans mon bureau, et quand elle m'a vu avec ma fille, elle dit, pasteur, c'est ta fille? J'ai dit, oui. J'oublierai jamais. Elle a fondu en larmes, ça coulait des yeux, ça coulait des narines, ça coulait de la bouche. Cette jolie femme était méconnaissable, il y avait la morve partout. Je me souviens même comment elle essuyait ça, allait même sur tout le visage. Et je comprenais que sa douleur était forte et intense. J'aurais voulu l'arrêter dans ses pleurs, mais je sentais que c'était tellement profond, je dis non, je ne vais pas la choquer. Quand elle s'est arrêtée, je lui ai dit, maman, pourquoi vous pleuriez? Elle a tenu ma fille à la main et dit, pasteur, il y a 18 ans, ma petite fille avait l'air aussi innocente que ta fille. Il y a 18 ans, je pouvais lui donner le ciel et le bon Dieu. Pasteur, tu sais quoi? Ça fait 3 ans et demi, ma fille va son corps sur le boulevard comme prostituée. Et je dois vous avouer, quand elle a parlé ainsi, j'ai serré ma fille fort. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Il dit, il y a autant d'années, c'était une petite fille mignonne avec des chignons. Qui pouvait croire que derrière cette petite mignonne, ça sera une commerçante du corps. J'aimerais vous dire, parents, le diable n'aime pas vos enfants. Il est prêt à tout, même à des heures supplémentaires pour faire votre douleur. Et j'aimerais surtout parler à mes jeunes frères, nous qui sommes dans le ministère. Le diable voudra vous frapper par vos enfants. Mon pasteur, qui est le pasteur de la plupart d'entre vous, il me disait un principe que j'enseignerai vendredi. Il disait, un parent qui ne prie pas pour ses enfants investit pour des larmes et la honte. J'aimerais m'avancer encore pour mieux vous le dire. Il m'a dit, un parent qui ne fait pas des prières préventives pour ses enfants sera obligé un jour de faire des prières curatives. Et j'avance encore pour vous dire. Il m'a dit, les prières préventives coûtent moins cher, mais rapportent beaucoup. Mais les prières curatives coûtent beaucoup. N'attendez pas que vous découvrez dans le sac de votre enfant un joint des hachiches pour commencer à prier. Commencez déjà quand ils ont 3 ans, 4 ans à déclarer, mes enfants ne toucheront pas aux hachiches. Mes enfants ne toucheront pas à la drogue. Ni par curiosité, même quand ils seront avec des amis qui voudront les amener à une expérience. Seigneur, même là où je ne serai pas là, toi, tu les arrêtes. Amen. Quand cette maman est sortie, j'ai compris un rôle que j'ai à jouer. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Depuis cette date-là, 94, aujourd'hui 20 ans, chaque mardi, je mets les 3 repas de la journée de côté. Je mange léger le soir pour le futur de mes enfants. Chaque mardi, papa tireur d'élite. Un gros foufou. Beaucoup de légumes. Côtelettes de dinde. Mange seulement. J'aimerais te dire comme chez nous qui soit élite. Coule là. Mange encore. Pasteur Eliezer. Ézéchiel plutôt. J'ai l'habitude, toujours le 1er janvier, je ne mange jamais. Je prends simplement du thé et je prends des fruits le soir. je consacre le futur de ma famille, de l'Église, entre les mains de Dieu. Et le 1er janvier 2012, je finissais cette prière le soir. J'ai chauffé déjà l'eau vers 18h05 pour à 18h, juste quand j'ai fini de prendre ma tasse d'été. J'entends, tu continues demain. Mais tu prieras pour la deuxième fille. J'ai dit, Seigneur. Et ma famille était en train de festoyer. La table était garnie. L'odeur de l'un de mes repas préférés, les macayabou, entrait dans mes narines. Ces poissons spéciaux. Soit dit en passant, il y a une chose qui me plaît, c'est que même à l'enlèvement, on continuera à manger. Ça m'a rassuré. Je disais un jour chez moi à l'église, quand l'enlèvement aura lieu, je ferai goûter les macayabou à l'apôtre Paul. Je dirais, goûte ça, c'est fantastique. Et je me mets à prier le deuxième jour. Je termine de prier après 2 heures. Je confie notre deuxième fille. Et puis je vois une image bizarre. Pour ceux qui connaissent mon pays, surtout la capitale Kinshasa, je vois ma fille en train de conduire une voiture. À l'époque, elle ne conduisait pas encore. Et puis elle quittait cet endroit qu'on appelle Temple du Centenaire, sur la grande avenue 24 novembre. Elle sortait vers le boulevard. Mais arrivée sur le boulevard, elle n'a pas regardé le véhicule qui passait. Elle est sortie pour un gros camion, l'a cogné. Et je vois le véhicule de ma fille devenir tout plat. Et je vis sa chair qui sortait comme de la viande hachée. Je regarde, je dis, Rouen est parti. Et je vis 2 phrases écrites au-dessus. Prie pour que ta fille, cette année, ne fasse pas de mauvaises rencontres. Et là où il était écrit mauvaise rencontre, c'était écrit en rouge et ça faisait bien, bien, bien. Et la deuxième phrase, je t'ai montré cela pour te dire que tu peux éviter ça. J'en parlerai tout au long de cette semaine. Dieu ne parle aux parents prophètes qu'est-ce qu'ils se mettent en position de l'écouter. Donnons-nous des Joseph qui, quand tout va bien, ils peuvent entendre, il y a Hérode qui menace l'enfant. Prends-le, va le cacher en Égypte, jusqu'à ce que ceux qui en veulent à l'enfant meurent. Qu'il y ait des enfants qui sont en danger, mais aucun parent pour entendre. Aucun parent pour avoir l'écho, pour savoir qu'un danger menace. Buveur, mangeur, gaveur de ventre. Et une semaine après, j'entends mon épouse parler au téléphone et puis elle crie, ça ne doit pas arriver, ça ne peut pas arriver, ça ne doit pas arriver. Il faut que tu ailles qu'on change de chambre. Je demande à mon chéri, qu'est-ce qu'il a dit? Non, Roland, laisse, ça ne doit pas. Roland, on va prier. Puis elle a prié avec notre fille. Quand elle a coupé, je l'ai vu, elle a commencé à trembler, dit Roland, notre deuxième fille est en danger. Je lui dis quoi? Il dit, hier, c'est la rentrée pour les secondes termes à l'université. On les a réparti les chambres, elles sont toujours en chambre, 2 à 2. On l'a placée avec une fille qui vient du Texas. Dès la première nuit, cette fille lui a dit, je suis lesbienne. Et de 2, je suis toxicomane. C'est la 3e fois où je sors d'un centre de désintoxication. Et notre fille est allée réclamer qu'on puisse lui changer le lien. Durant les 3 mois qui viennent, on ne peut pas changer. Il faudra attendre coûte que coûte. Combien quelquefois nos enfants arrivent à faire des choses, non pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont été au contact des mauvaises personnes. Les premières expériences qui amènent plus tard à l'esclavage sont des expériences dictées par la curiosité. J'essaie par curiosité, j'essaie parce que les autres font, et la curiosité va se transformer en esclavage. Et je me suis souvenu que Dieu m'avait parlé de mauvaises rencontres. Et mon épouse et moi, on a prié. Je me souviens, mon épouse, elle dormait presque pas. Chaque soir, elle appelait, est-ce qu'elle t'a touché? On a commencé à donner comme conseil, quand tu finis les cours, ne rentre pas en chambre. Va à la bibliothèque. Reviens seulement tardivement pour dormir. Je sentais combien mon épouse était tendue. Mais j'aime Dieu entendre la prière. J'avais fait une prière préventive, mais nous avons aussi fait des prières qui ont accompagné. 6 semaines après, notre fille nous appelle, « Papa, cette fille vient de quitter l'université d'elle-même. » Et nous avons rendu grâce à Dieu. Il y a des choses que nous pouvons éviter. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui m'aide à dire « Amen ». Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 13, l'apôtre Pierre dit « Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. » Il dit « Le but de l'avertissement, c'est de vous garder éveillé, de vous dire « Faites attention, je vous garde en éveil par des avertissements. » Et j'aimerais avertir les parents que ça peut arriver. Et pour éviter cela, nous devons fonctionner comme des parents prophètes. Toujours 2 Pierre chapitre 3 verset 1. J'aime beaucoup ce passage. Place-moi ce passage. 2 Pierre chapitre 3 verset 1. L'apôtre Pierre dit, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Je cherche à vous dire attention. Je cherche à vous dire ça peut arriver. La quatrième et dernière raison, avant que je ne conclue en 5-7 minutes, quatrième raison de cet enseignement, c'est l'évaluation. L'évaluation. Et parlant de l'évaluation, là je m'adresse un aux parents confirmés, et puis deux, aux parents novices, ceux qui commencent à être parents. C'est l'évaluation. Les mots évaluation cachent deux idées. La première idée derrière les mots évaluation, c'est estimer ou juger pour déterminer la valeur de quelque chose. Évaluation. Ça, on l'a acheté il y a 2 ans. Quand on a acheté, peut-être ça coûtait 500 $. Mais vu qu'ici, ce n'est plus comme ça, je pense que la valeur d'aujourd'hui, ça peut être 250. Estimer. Ou juger en déterminant la valeur de quelque chose. Deuxième idée cachée derrière l'évaluation, c'est estimer même approximativement la valeur de quelque chose ou le résultat d'une action. Et en matière d'évaluation, le but pour lequel Dieu m'a placé ici, c'est pour que les parents novices et les parents confirmés puissent s'arrêter. C'est-à-dire, quel genre de parent je suis aujourd'hui? Suis-je un bon parent? Suis-je en train de tisser du bon coton? Et en matière d'évaluation, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est l'auto-évaluation. Où c'est moi-même qui m'arrête et j'accorde une valeur à mes actes. La deuxième manière, c'est l'évaluation extérieure. Là, ce n'est plus vous-même qui vous jugez, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous juge, qui émet un jugement des valeurs. Et laissez-moi vous dire ces 2 choses avant d'aller plus loin et conclure tout à l'heure. C'est qu'en matière d'auto-évaluation, c'est-à-dire on s'évalue soi-même, il y a une première possibilité, c'est la justesse. Il y a des gens qui peuvent s'auto-évaluer et bien les faire, sans complaisance, mais sans aussi exagération. Il y a des gens qui sont capables de dire non. Combien de fois c'est merveilleux de se juger soi-même. Dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 31, celui qui se juge lui-même ne sera pas jugé. Combien quelquefois c'est bon de s'évaluer soi-même. Et j'aime 2 cas que je trouve dans la parole de Dieu d'auto-évaluation. 2 Samuel chapitre 3, verset 39. David est devenu roi d'une partie du pays à Hébron. Mais écoutez ce que David dit. Quoique j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible. Remarquez, ce n'est pas l'extérieur qui l'évalue. C'est lui-même qui émet un jugement. Je suis encore faible. Je ne suis pas suffisamment fort. J'aimerais vous poser la question, vous qui êtes parents, êtes-vous un bon parent? Sans que l'extérieur vous le dise. Et j'aimerais que vous vous jugez encore mieux à lui de cette parole quand je vais continuer. Demain, après-demain, samedi et dimanche. Est-ce que vous pouvez vous arrêter et dire, là j'ai des lacunes, là j'ai des manques. J'aime encore dans la parole de Dieu. Dans le 2e livre des Rois, chapitre 7, verset 9, ces 4 lépreux, ils sont rentrés dans la Syrie. Et ils sont des éléments que Dieu a utilisés pour faire partie de la famine. Alors qu'ils sont en train de prendre la nourriture, j'aime ce que la Bible dit. Ils s'arrêtent eux-mêmes et disent, ce que nous faisons n'est pas bien. 2 Rois chapitre 7, verset 9. Ils disent, ce que nous faisons n'est pas bien. Ce n'est pas l'extérieur qui juge leur acte. Eux-mêmes, ils s'arrêtent et disent, C'est pas bien ce que nous faisons. Et j'aime encore la version La Colombe dit, nous n'agissons pas comme il se doit. Chacun s'arrête et dit, notre agissement n'est pas bien. Je prie que durant ces jours, toi et moi, nous puissions nous auto-évaluer. La deuxième chose qui arrive lorsqu'il y a l'auto-évaluation, et ça c'est le piège dans lequel la plupart d'entre nous tombons, c'est la complaisance. La complaisance vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire, on s'accorde des choses positives qu'on n'a pas. Et on se refuse de s'accorder des choses négatives réelles que l'on fait. On s'excuse. On minimise ses erreurs, on minimise ses manquements. De Samuel chapitre 11, verset 25, David vient de commettre un acte grave. Il a fait tuer Uri les Hétiens. Et on vient lui donner les rapports, Uri est mort. Écoutez comment il s'est complet. Il dit, allez dire à Joab que ce n'est pas grave. Sur un chemin de bataille, la flèche tout tantôt l'un, tantôt l'autre. Et pourtant, c'est un homicide qu'il vient de commettre. Volontaire, mais complaisance. Seigneur, épargne-moi d'être complaisant. Aide-moi de m'arrêter et dire non, Roland, tu n'es pas un bon père de famille. Roland, tu ne joues pas bien ton rôle. Troisième tendance qui arrive, c'est la dureté. C'est-à-dire, et ça aussi c'est un mal, c'est le fait d'être tellement exigeant, tellement perfectionniste, qu'on ne voit pas les biens que l'on fait. On est tellement perfectionniste qu'on refuse, merci ma soeur, de voir les biens qu'on est en train de faire. Dans 1 Roi chapitre 19 au verset 4, Élie a fait des bonnes choses, mais parce que seulement il a fui devant Jézabel, écoutez comment il se juge avec dureté. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Pour une seule bévue, lui-même il oublie. Ça c'est l'auto-flagellation. Il arrive des fois, nous sommes trop durs envers nous-mêmes. Mais j'aimerais nous encourager, premièrement à l'auto-évaluation, mais deuxième manière aussi d'une grande importance, c'est laisser évaluer par quelqu'un d'autre. Et quand je dis c'est laisser évaluer par quelqu'un d'autre, j'aimerais durant ces 5 jours amener les couples qui sont ici à faire montre de ces 3 vertus importantes. La première, le courage. La deuxième, l'humilité. Et la troisième, l'honnêteté. Je voudrais, peut-être déjà pas encore, mais après-demain, sur lendemain, Marie, ayez le courage de poser la question à votre épouse. Chérie, suis-je un bon père pour les enfants? Et te regarderai et te dira, les gars, non, mais là, que je te dise. Je prie que durant ces 5 jours, courage, humilité, honnêteté, maman, posez la question à votre mari, chérie, dis-moi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Est-ce que je suis une bonne mère? Et te dira, non. Toi, ta spécialité, c'est pédicure, manicure. Enfin, cure, tu ne connais pas. C'est laisser évaluer. Vous savez, ce n'est pas un exercice facile. Hein? L'homme naturel aime les compliments. L'homme naturel aime les louanges. Mais quand on se laisse juger par l'autre, il est possible qu'il mette les doigts à la plaie. Et sur ce plan, j'aime 2 personnes. J'aime d'abord notre maître, votre maître à vous et le mien, Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, verset 13 à 15, il se retrouve devant ses disciples. Il a le courage de leur dire, qui dit-on que je suis? Renvoyez-moi l'image que les autres ont de moi. Et au verset 15, il va plus loin. Après qu'eux, ils ont donné les opinions des autres, il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Seigneur, tu veux vraiment qu'on te dise? Bel exercice. Qui dit-on que je suis? Combien c'est bon de se laisser évaluer. Exode chapitre 18, verset 17. Moïse est en train de travailler. Son beau-père Jéthro l'observe. Et il vient lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. Ta façon de te comporter n'est pas bien. Comment tu reçois cela? Et là où il y a l'autre, on se laisse évaluer par l'autre, il y a 4 avantages qui arrivent. Premièrement, l'évaluation permet de savoir où nous en sommes. Deuxièmement, l'évaluation permet de savoir et d'identifier ce qui ne va pas. Et troisièmement, l'évaluation permet d'identifier ce qui va afin de les conserver. Et puis enfin, quatrièmement, l'évaluation est toujours un premier pas vers les progrès. Vous n'avez jamais constaté, même des grandes entreprises, ils arrivent en fin décembre, ils arrêtent tout. Eux qui aiment l'argent, durant une semaine, ils disent on ne va pas vendre. Pourquoi ils veulent s'évaluer? Ils veulent vérifier. Ils ferment les portes. Ils écrivent sa main des bilans. Est-ce qu'ils ont tellement vendu qu'ils n'en ont plus besoin? Ils veulent se juger. Est-ce qu'on est en train de progresser? Ou on est en train de faire que des gens qui ne veulent pas s'évaluer? En tant que couple, évaluons-nous. Évaluons-nous dans notre paternité. Et j'ai dit en quelques minutes, et puis nous allons nous mettre à genoux tout à l'heure. J'aimerais en quelques minutes nous parler du mystère du peuple juif. Je ne prendrai pas beaucoup, 5 à 7 minutes. Un peuple à part. Une étude du peuple juif nous révèle que c'est un peuple à part, aux caractéristiques et aux performances qui sortent de l'ordinaire. Certains disent que cela est sûrement lié à leur appel, à leur vocation, et puis surtout à l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Mais quand on étudie, cela va au-delà. Cela est attaché à certaines pratiques, dont celles que nous allons étudier, nous avons commencé à étudier. Aujourd'hui, j'ai introduit, demain, nous allons encore les renforcer. J'aimerais vous donner quelques chiffres, et puis 2 déclarations, et puis je vais clore. J'aimerais laisser les chiffres parler. Notez ces chiffres. Les Américains d'origine juive représentent 2,6% de la population des États-Unis, mais ils représentent 20% des millionnaires en dollars. 2,6% pour une nation qui a autant de nationalités, mais eux seuls ont 20% des millionnaires et 80% à plus des autres 141 nationalités. Donc 141 nationalités ont 80%, mais une seule origine, ils ont 20. J'ai dit, je laisserai parler les chiffres. Sur 1426 milliardaires qu'il y avait au monde en 2012, 165 étaient juifs, c'est-à-dire 12%. Et si on les met à l'échelle du monde, les juifs dans le monde représentent 0,2% de la population. Mais ils ont 12% des milliardaires. Les Congos, en termes de pourcentage, j'ai étudié. On est beaucoup, je pense, dans les 4 ou 5. Mais on représente 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0,2% de la population, mais ils ont 12% des milliardaires. Notez encore ce troisième chiffre. De 1901 en 2010, c'est-à-dire en 110 ans, on a donné quasiment 540 prix Nobel, mais il y a eu 817 personnes qui ont eu des prix. Et notez ceci, parmi les 817 qui ont eu des prix, il y a eu 181 juifs. Parmi les 817 prix Nobel, c'est-à-dire 22% des prix Nobel dans le monde. Le Congo, je ne sais pas combien de pourcents. Sur 204 prix Nobel de médecine, 50 sont des juifs, 26%. Sur 69 prix Nobel d'économie, 29 sont des juifs, c'est-à-dire 41%. Sur 160 prix Nobel de chimie, 36 les sont par des juifs, c'est-à-dire 22%. Jusqu'en 2012, 54% des champions d'échecs étaient d'origine juive. Jusqu'en 2012. Sur 100 étudiants qui font la distinction chaque année aux États-Unis, 21% sont d'origine juive. Sur 100%. Sur 51% de ceux qui ont gagné les prix en littérature qu'on appelle les prix Pulitzer, 51% sont des juifs. Les Congolais, je ne sais pas, on est à combien. Les Centrafricains, comme on m'a dit, Ezekiel, je ne sais pas s'ils sont à combien. Mais le plus étonnant encore, sur 100% des juifs qui émergent dans un domaine ou dans un autre, 95% viennent des familles juives pratiquantes. Des familles juives qui posent certains actes que je vais juste mentionner aujourd'hui et demain j'irai encore en profondeur. Le 27 novembre 1967, le général de Gaulle, qui était président français après la Deuxième Guerre mondiale, a tenu une conférence de presse et il a fait cette déclaration parlant des Juifs. Écoutez ce qu'il a dit. C'est un peuple qui est et qui restera tel qu'il a toujours été depuis tous les temps. C'est-à-dire un peuple d'élite, hein, un peuple sûr de lui, et trois, un peuple dominateur. Ça, c'est un dirigeant d'un pays qui émet une opinion sur un autre peuple, un peuple d'élite, des locomotives.